Vous êtes bien sûr Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel, Yannick Trigans, secrétaire national du Parti Socialiste en charge de l'éducation, conseiller régional en Ile-de-France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous venez de publier Chronique de l'école jupitérienne 2017-2026, deux quinquennats de politique éducative sous Emmanuel Macron, c'est aux éditions Eliade. Alors l'actualité, hein, ce sont les résultats PISA. L'OCDE a dévoilé ses résultats du programme international pour le suivi des acquis des élèves de 15 ans, en clair le niveau des élèves aujourd'hui. Et les scores en compréhension de l'écrit et en mathématiques n'ont jamais été aussi bas en France et dans les autres pays de l'OCDE depuis 2000, hein, c'est-à-dire depuis que ce classement existe. Quel type d'enseignement il faut en tirer? Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui face à cette forme de déclassement?
Oui, alors bien évidemment il y a urgence, mais vous venez de le dire à juste titre. D'abord, la France reste proche de la moyenne internationale, mais il y a un recul progressif depuis maintenant une dizaine d'années. Hein, ça fait à peu près 10 ans. Moi, ce sur quoi je voudrais insister au travers de ce rapport qui, comme vous l'avez dit également, en science, en lecture, bon, c'est toujours difficile, mais ça l'est encore un peu plus en mathématiques, mais il y a d'autres points que le rapport souligne, c'est notamment la question des inégalités. Les inégalités restent très très fortes en France, c'est tellement vrai que par rapport à d'autres pays, ces inégalités sont sans commune mesure, et que l'écart de performance, et c'est dans le rapport, PISA, entre les établissements, il est beaucoup plus important en France que dans la moyenne des pays. Et donc, cela signifie que nous avons un sujet, nous avons une véritable ségrégation en France par rapport aux autres pays. Ça, c'est le premier élément.
Alors, ce sont les inégalités en fonction des territoires, des classes sociales, des différentes composantes de la population. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément?
Bien sûr, parce qu'on a des inégalités qui relèvent avant tout des inégalités sociales. Je vous donne un seul exemple. En sciences, un quart des élèves les plus favorisés devance de 100 points celui des élèves les moins favorisés. Et donc, c'est une valeur qui est un écart qui est très supérieur à celle des autres pays l'OCDE, puisque la différence dans les autres pays, elle est en moyenne entre 80 et 85 points. Là, on est à 100 points d'écart entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés. C'est la même chose en mathématiques et c'est la même chose en sciences. Et donc, on voit bien qu'il y a le sujet de ces inégalités qui pèsent très lourdement sur la réussite des élèves, c'est-à-dire que l'endroit où vous vivez, le milieu d'où vous venez, conditionne pour une très grande part, ça n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais conditionne eh bien à la fois votre parcours et votre réussite.
Et vous le dites, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui perdure depuis de nombreuses années. Ce n'est pas à mettre sur le compte, par exemple, des quinquennats d'Emmanuel Macron.
Ah ben, les inégalités, quand même, depuis 10 ans, se sont considérablement aggravées. Et lorsque l'on sait que les conditions de travail des enseignants et des élèves pèsent très fortement sur la réussite des élèves, on voit bien que depuis 10 ans, l'école de la République, petit à petit, est démantelée. Nous avons eu 10 000 suppressions de postes à ce jour dans l'éducation nationale, donc 4 000 encore en cette rentrée. Nous avons des enseignants qui, aujourd'hui, sont les moins bien rémunérés, ont le plus d'élèves par classe. Cette question-là, elle est quand même importante.
Même s'il y a eu des revalorisations et des augmentations de salaires sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est important aussi de le souligner, de dire ces vérités.
Surtout pour les débuts de carrière, mais pas pour les milieux et les fins de carrière. Un enseignant aujourd'hui, pour atteindre le sommet de la grille salariale en France, il met 35 ans. Dans un pays, dans d'autres pays, en moyenne, c'est 25 ans. Donc on voit bien, il n'y a pas eu de réel, hormis pour les débuts de carrière, mais la revalorisation, elle est toujours attendue par les enseignants. D'autre part, nous avons la question des effectifs dans les classes, puisque nous sommes le pays avec une des moyennes les plus élevées, et que ce gouvernement aurait la possibilité de diminuer le nombre d'élèves par classe parce qu'il y a une baisse démographique. Il va y avoir 1,7 million d'élèves en moins d'ici à 2035, et donc, sans créer de postes, donc sans dépenses supplémentaires, ce gouvernement pourrait profiter de la baisse démographique pour améliorer le taux d'encadrement, donc baisser le nombre d'élèves par classe, remplacer les enseignants afin qu'ils puissent aller en formation continue, ce qui est impossible aujourd'hui, et puis remplacer évidemment les enseignants qui sont en arrêt. Donc il y a là des leviers, des possibilités que le gouvernement, par exemple de 2012 à 2017, lorsque la gauche était en responsabilité, il y avait une augmentation démographique. Et donc il n'y avait pas cette possibilité que ce gouvernement a aujourd'hui et que malheureusement il n'utilise pas, puisque il y a encore 4000 suppressions de postes en cette rentrée.
Et oui, hein, vous faites état de 2012-2017. Si on prend par exemple le classement PISA de 2015, alors il était moins catastrophique que cette année. Les élèves de 15 ans, les élèves français, affichaient des performances dans la moyenne de leurs pairs des pays de l'OCDE en sciences, mathématiques et compréhension de l'écrit. Mais une fois encore, la France se distinguait par le poids de l'origine sociale sur les résultats des enfants et adolescents. Près de 40% des élèves français issus d'un milieu défavorisé étaient en difficulté pour les tests de performance PISA, contre 34% pour la moyenne des pays de l'OCDE. C'était donc bien plus important encore en France, et cela remonte à plus de 10 ans.
Ce qui signifie qu'à un moment donné, il faut politiquement savoir où l'on met les priorités. Est-ce que l'on considère qu'on continue à avoir une société et une école qui petit à petit créer des formes de séparatisme scolaire, avec par exemple des moyens financiers considérables qui sont mis dans l'enseignement privé sous contrat, alors que l'enseignement privé sous contrat trie les élèves et ne conserve que les bons élèves entre guillemets, puisque on le sait aujourd'hui, la majorité des élèves issus des milieux favorisés se trouvent dans l'enseignement privé sous contrat et non pas dans l'enseignement public, alors que l'enseignement privé sous contrat perçoit mais à peu près de 10 à 13 milliards d'argent public chaque année, sans remplir ses obligations. Est-ce qu'on considère que l'éducation prioritaire, comme dans mon département de la Seine-Saint-Denis, doit être véritablement une priorité et que donc on met les moyens pour remplacer les enseignants, puisque les enfants de mon département, par exemple, perdent une année, l'équivalent d'une année scolaire complète, le temps de la scolarité obligatoire, faute de remplaçant. Est-ce que l'on considère à un moment donné il faut former des enseignants, non pas seulement en formation initiale, mais tout au long de leur carrière? On a un certain nombre de vraies questions qui aujourd'hui interpellent. Et si on ne répond pas à ces questions-là, ce séparatisme social qui est à l'œuvre continuera de s'aggraver et on aura des écoles, je vais à peine caricaturer, mais des écoles de riches et des écoles de pauvres. Et la réalité aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer si on ne rétablit pas la priorité à l'éducation, alors que chaque année, on le voit bien encore maintenant, il faut se bagarrer, non pas pour avoir des moyens en plus, mais déjà pour ne pas perdre ce qui existe déjà aujourd'hui.
Ce que vous qualifiez de séparatisme social qui était déjà là lorsque la gauche, François Hollande, était au pouvoir. La gauche agirait différemment aujourd'hui si elle revenait au pouvoir. Je rappelle que vous soutenez Olivier Faure, qui est candidat à la primaire des socialistes et de Place Publique.
Oui, pardonnez-moi, mais je crois qu'il faut rétablir les choses. De 2012 à 2017, nous avons fait des choses en matière d'éducation. Nous avons déjà créé 60 000 postes alors que Nicolas Sarkozy en avait supprimé 80 000. Nous avons rétabli la scolarisation des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle. Nous avons revalorisé les enseignants. Nous avons réformé l'éducation prioritaire. Nous avons même réformé les rythmes scolaires à l'époque. Donc il y a des choses qui avaient été faites à l'époque. Ça c'est un acquis.
Et là, je faisais référence aux élèves issus d'un milieu défavorisé. Près de 40% d'entre eux étaient en difficulté, contre 34% dans les autres pays de l'OCDE.
Oui, et nous avions par exemple mis en place un dispositif qui fonctionnait très très bien qui était plébiscité par les enseignants, mais que M. Blanquer a détricoté en arrivant, qui était le dispositif plus de maîtres que de classes, où dans une école par exemple de 7 classes, on mettait un 8e enseignant, et donc cet enseignant-là travaillait avec l'ensemble de l'équipe pédagogique pour intervenir justement auprès des enfants au sein de la classe.
Mais il y avait des disparités quand François Hollande était président, c'est important de le reconnaître aussi. Je voudrais vous interroger, Yannick Trigance. Je rappelle que vous êtes en charge de l'éducation au Parti Socialiste, vous êtes secrétaire national à l'éducation. Un élément très intéressant, PISA a établi que les élèves ne sont plus que 20 à 30% à ne pas recourir à l'intelligence artificielle. Et les bons scores en sciences sont corrélés à une moindre utilisation de l'IA. C'est vraiment un sujet du moment. Est-ce qu'il faut d'abord restreindre le recours à l'intelligence artificielle ?
Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous soulignez comme point. Et pour compléter ce que vous venez de dire, le rapport indique également que les meilleurs résultats sont associés à une utilisation, je cite le rapport, une utilisation modérée. Et surtout, notamment quand elle s'articule avec les interactions avec les enseignants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bien évidemment, il ne faut pas rejeter l'intelligence artificielle ni le numérique. Simplement, il faut permettre à tous les élèves de se doter des outils qui leur permettent de maîtriser finalement ces outils-là. Et donc ça, c'est dans l'interaction avec les enseignants. Et donc ça s'apprend. Utiliser l'intelligence artificielle, ça s'apprend. Utiliser le numérique, ça s'apprend. Et là, il y a des inégalités terribles. Parce que moi, mes petits-enfants, il n'y a pas de souci. Leurs parents sont derrière, leur expliquent, régulent, etc. C'est comme pour la question des écrans. Mais vous avez des enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir auprès d'eux des adultes qui leur permettent de maîtriser ces outils-là. Et donc, il faut que l'école, effectivement, apprenne aux élèves à utiliser le numérique, à utiliser l'intelligence artificielle. Et je connais des enseignants qui travaillent déjà ces questions-là au sein de leur classe. Je voudrais préciser aussi, d'ailleurs c'est dans le rapport, que 37% des élèves utilisent l'intelligence artificielle pour apprendre au moins une fois par semaine, et dans l'OCDE, c'est 46%. Donc on voit bien que pour l'instant en France, l'intelligence artificielle n'a pas envahi les écoles. Il n'y a pas une submersion de l'école, puisque la France est même d'ailleurs en retard. Et surtout, les enseignants français sont parmi les moins formés sur les questions d'intelligence artificielle par rapport à leurs collègues des pays de l'OCDE.
Et dans votre ouvrage, Yannick Trigance, vous plaidez pour que l'État investisse dans l'intelligence. Cela se traduirait comment ?
Ça veut dire qu'il faut déjà permettre donc à un maximum et à tous les élèves de réussir. Ça veut dire que c'est la question du traitement de la difficulté scolaire. Et là, nous avons un rééquilibrage à faire parce que notre système marche un petit peu sur la tête. Nous investissons beaucoup plus dans le lycée que dans l'école maternelle et dans l'école élémentaire. Or, nous savons bien que c'est dès l'école maternelle, j'ai été directeur d'école maternelle pendant longtemps, c'est dès l'école maternelle que les difficultés commencent déjà à émerger et qu'elles se cristallisent à l'école élémentaire et qu'arrivé au collège, on a des élèves qui sont déjà, pour certains, en très grande difficulté. Donc il faut mettre le paquet sur le premier degré, il faut mettre le paquet sur la formation des enseignants initiale et continue, parce que vous observerez que les pays dans lesquels les élèves réussissent le mieux sont les pays dans lesquels les enseignants ont été le plus formés. Donc il y a bien un lien entre le niveau de formation des enseignants et la réussite de leurs élèves. Et puis enfin, dernière chose, je pense qu'il faut laisser l'école respirer. C'est-à-dire que le temps politique n'est pas le temps de l'école. Et donc ça suffit, les réformes qui tombent sur les enseignants à chaque fois qu'il y a un ministre différent, surtout quand, comme ce qui vient de se passer de 2022 à aujourd'hui, on a quand même eu 7 ministres de l'Éducation nationale, ce qui veut dire que pas un ministre n'a fait 2 rentrées scolaires depuis 2022. Pas un ministre de l'Éducation n'a fait 2 rentrées scolaires. Donc on ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut de la stabilité, il faut donner du temps aux enseignants, les laisser avec leurs élèves dans les classes, s'approprier, travailler ensemble, s'approprier les programmes, s'approprier les pratiques pédagogiques pour permettre à un maximum d'élèves de réussir.
Et ce que vous dites, c'est bien évidemment lié à l'absence de majorité absolue pour le camp présidentiel, avec ces gouvernements qui se sont succédés. Yannick Trigance, vous pointez par ailleurs l'instauration du port de l'uniforme, l'expérimentation dans 115 établissements en France, et c'est un échec, c'est ce qui ressort de cela ?
Bien sûr, c'est un échec, c'est une gabegie d'argent public. parce que on sait très bien que les inégalités sociales, les questions de harcèlement vont bien au-delà d'un t-shirt que l'on met ou d'un blazer ou de je ne sais quoi, et que utilisons l'argent pour justement travailler cette question de la difficulté scolaire. Vous savez, hein, les écoliers, entre eux, les élèves, les collégiens, les lycéens, les distinctions sociales, elles passent au travers des baskets, des cartables, des montres, et donc on n'a pas, vous voyez, l'uniforme n'est finalement qu'une question de façade, et c'est surtout que les décideurs politiques devraient en tirer toutes les leçons, parce que les études montrent que finalement ça ne joue pas et ça n'améliore pas la réussite des élèves. Ça peut jouer peut-être un peu sur le climat, le sentiment d'appartenance. Et encore, ça reste à démontrer. Et
oui, donc, mais justement, ouais. vous citez hein, l'étude menée par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Vous l'avez souligné, vous l'avez rappelé, vous avez été directeur d'école maternelle. Et justement, les trois quarts des directeurs d'école primaire estiment que le sentiment d'appartenance envers l'école s'est amélioré. Mais c'est vrai, ils sont plus réservés concernant le climat scolaire ou l'ambiance de travail.
Mais en fait, qui promeut aujourd'hui l'uniforme ? Ce sont les adultes, ce ne sont pas les élèves. Parce que tous les sondages qui sortent, par exemple, dans les lycées, quand vous interrogez les lycéens sur leur réussite scolaire, sur, vous voyez, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'emballement, au contraire. Au contraire. Donc en fait, ça c'est un point de vue d'adulte. Et moi je regrette que, par exemple, la région Île-de-France, où je suis élu, mette 3 millions d'euros par an pour quelque chose finalement qui ne fonctionne pas, ou que par exemple dans la ville de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis, c'est encore pire puisque l'État s'étant retiré du financement, la mairie s'est retirée, mais les parents maintenant doivent aller acheter dans une grande surface d'à côté pour 49,90 € de mémoire, doivent eux-mêmes financer. Donc on atteint là quand même des summums en matière de, on va dire, en matière d'absurdité. Et que cet argent public, eh bien, il serait bien plus intéressant de l'investir dans les réels besoins de l'école, qu'on s'attaque vraiment aux vrais problèmes comme ceux que l'on vient d'évoquer depuis le début de notre interview.
Un grand merci, Yannick Trigance.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes secrétaire national du Parti Socialiste en charge de l'éducation, conseiller régional en Île-de-France, et vous venez de publier « Chronique de l'école jupitérienne 2017-2026, deux quinquennats de politique éducative sous Emmanuel Macron », et c'est aux éditions Eliade. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
Merci à vous.